Alors, merci d'être venu. C'est pas toujours simple comme parent de trouver l'occasion de venir et de faire quelque chose. Je sais très bien. À un moment donné, nos vies se compliquent passablement avec l'arrivée des enfants et tout devient rempli quelque part et pouvoir prendre une soirée, voilà, c'est vraiment un privilège. Alors, merci beaucoup d'avoir pris la décision de le faire. Moi, je m'appelle Paul Marsh. Je ne suis pas particulièrement connu ici. Je passe parfois dans ces locaux, mais pour des autres raisons. Je travaille principalement pour un groupe qui s'appelle Ressources pour la famille, qui est parti de l'Université des Nations de Jeunesse en Mission. Donc, on travaille dans des pays francophones et ailleurs, avec des questions de ressources et des manières de venir à côté des familles. Parce qu'on croit que quelque part la famille, ou pas quelque part, pourquoi je dis ça, on croit que la famille est l'avenir pour nous tous. Donc vous qui êtes parents ce soir ici, vous êtes en première ligne des contributeurs pour l'avenir, n'est-ce pas? Le futur, ça compte sur vous. Donc c'est beau ça. Alors, une des choses qu'on fait, c'est d'essayer de trouver des parcours, des choses utiles et acceptables pour les familles, pour les couples, pour les parents. Et ce matériel-là, ça c'est une des choses, c'est produit par un couple en Angleterre. On a trouvé ça particulièrement euro-compatible, contrairement à certaines ressources qu'on trouve, mais qui finalement a une certaine couleur culturelle qui parfois peut être plus difficile ici. Et donc, il y a toute une série de choses qui vont avec. Donc, on a, j'ai pris ici, je sais que certains aimeraient prendre, j'ai pris le livre, L'art de vivre la famille. Donc, ça c'est là-bas, il y a des copies. Vous avez chacun reçu ce petit fascicule pour éviter de prendre 1000 pages de notes pendant toutes les soirées, et ça nous aidera aussi avec certains exercices et certaines questions. Il existe évidemment toutes les PowerPoints qu'on va utiliser, plus tout le matériel pour les enfants en parallèle qui a été développé par Joël Zeller. Et en fait, on va utiliser cela le dernier samedi pour les dernières deux séances. Donc, tout ça, c'est déjà préparé et prêt. Plus toutes les enseignements quelque part inscrits d'une manière que quelqu'un pouvait assez facilement prendre ce matériel et l'utiliser directement ailleurs dans toutes sortes de circonstances. Donc cette fois-là, nous allons partager un tout petit peu l'enseignement. Je vais commencer ce soir, mais après on va progressivement passer à des autres membres de l'équipe. Les soirées se déroulent d'une manière suivante. Donc, il y a une toute première partie qu'il faut supporter, où on va présenter certaines choses. Après, il y a la partie pour laquelle on est véritablement tous venus, la pause. Avec... Et après, on va se diviser dans des petits groupes de dialogue pour pouvoir échanger ensemble autour des sujets qu'on aborde chaque soirée. En fait, je crois personnellement que c'est souvent dans ces moments d'échange que nous avons vraiment le plus au niveau de l'apport. Parce que c'est là qu'on entend, on cause, on voit ce que d'autres parents font, on tire des idées, on arrive à partager certaines choses que nous vivons, et tout ça c'est très riche. Donc je trouve ce matériel bien, 6 séances est, à dire vrai, largement passé. La première fois que ce matériel a été publié, c'était sur 10 séances, pas 6. Et même avec 10, il y a certaines choses qui ne sont pas dedans. Donc, on ne peut pas dire que ces soirées sont exhaustives. D'accord? Mais voilà, ils couvrent un certain nombre de points qui nous aident à resituer nos parcours de parents. Nous avons des enfants qui sont maintenant des adultes. Donc, on ne sait pas si on les appelle encore des enfants ou pas. Hein. Mais effectivement, après, voilà.
Ça dérange quelqu'un?
Non, si non, on peut fermer.
Okay.
C'est clair qu'après plus de 27 ans d'être parent, Je me rends bien compte que si j'avais su certaines choses que je sais aujourd'hui un peu plus tôt, ça m'aurait bien aidé. Je pense que ça aurait aidé à mes enfants aussi. Alors, ça ne veut pas dire que la situation a mal tourné. Mais on est très conscient que voilà, on n'est pas préparé quelque part pour être parent. Ça nous arrive, l'enfant grandit plus rapidement qu'on arrive à suivre, les choses changent, on n'a jamais étudié ça particulièrement, et quelque part, on fait avec les moyens de bord qu'on a, mais bien souvent, pour tout parent, il y a des moments de dépassement. Et donc, je crois qu'on est tous très compatissants, hein, comme parents. Les jours qu'on entend dans un journal qu'on a vu un parent qui a secoué son enfant et il est arrivé au tribunal à cause de ça, on dit tous, j'étais pas loin moi non plus d'être autant frustré et fatigué et sans savoir que faire. On peut super bien comprendre comment à quelqu'un ça peut arriver. Donc la réalité, c'est qu'avant d'avoir des enfants, on sait comment faire. Mais une fois qu'on commence le parcours, le plus que ça progresse, le plus qu'on se rend compte qu'on ne sait pas comment faire. Et donc, c'est beau, mais c'est vraiment la réalité. En plus, si vous avez plusieurs enfants, vous vous rendez compte que le numéro 2 n'est pas le numéro 1. Et le numéro 3 ne se rend pas aux autres non plus. Donc, il faut un mode d'emploi pour chacun, n'est-ce pas? Donc, si je vous demandais de dire dans deux mots les domaines qui sont peut-être le plus défiant au niveau de ces questions d'être parent, qu'est-ce que vous diriez?
Ce qui nous pose le plus de problèmes.
Oui, oui, qu'est-ce qui pose le plus de défis?
Les limites.
Les limites, oui, ça c'est un très bon mot, merci.
Gérer les états de crise de l'enfant.
Oui, voilà.
Oui,
exactement. Comment faire avec l'enfant dans ces cas, oui. Merci.
L'obéissance.
Oui, on aimerait bien qu'ils obéissent, n'est-ce pas?
Oui.
Oui.
C'est s'arrêter aussi.
Là?
S'arrêter.
Oui,
parce
oui.
Que souvent on est pris dans nos activités et on ne s'arrête pas pour l'enfant.
Oui, tout à fait. Oui, c'est une bonne observation. Oui. De savoir prendre le temps pour être parent.
Ouais.
Oui, merci. Oui. Mm-hmm. Oui, ce sont des bons...
L'entente entre les enfants.
Oui, exactement. Les frères sont faits pour la guerre, n'est-ce pas? Oui. Si je ne veux pas battre mon frère, qui est-ce que je veux battre? Ah, vous savez, nous, nos premiers enfants, pour des voyages un peu plus longs en voiture, j'avais construit une barrière en bois. C'était un voyage en isolation. Isolement total pour survie. Ah là 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 là. Mais c'est clair, hein? Et personne n'a mentionné, par exemple, les défis de mettre l'enfant au lit.
Ah oui.
Voilà, oui. Exactement. Oui. C'est question, oh, question des nourritures. Voilà. Ah. Donc, il y a un tas de domaines avec lesquels on est confronté, et parfois en simultané, et surtout avec plusieurs enfants. Et ça, c'est compliqué. Donc, on pose facilement toutes ces questions, voilà, si on arrive à voilà, réveiller l'appareil. Donc on ne sait pas. Et on dit, mais si je pouvais juste avoir une sorte de façon de savoir que faire pour que ça fonctionne, et on se rend compte qu'un enfant n'est pas un téléphone portable. Même que les téléphones portables sont compliqués, à un moment donné, on peut savoir quel bouton presser, n'est-ce pas? Ah, aussi. Mais l'enfant, non. On pense qu'on a trouvé la solution, on essaie de l'appliquer. Qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve qu'il agit complètement autrement de ce qu'il a fait la dernière fois. Donc, on est déboussolé. Et les enfants, ils sont champions pour ça. Ils sont très bien comment pousser les limites, très bien comment agir pour que nous, on ne sait pas ce qui se passe, très bien comment manipuler pour arriver à ce qu'ils aimeraient, on dirait qu'ils sont préprogrammés pour ça. Donc, ça nous rend effectivement la situation un peu plus compliquée. L'objectif de ces soirées, c'est d'essayer pas tellement de nous dire ce qu'il faut faire, même si on va essayer de faire ça d'un certain point, mais de pouvoir dire où est-ce qu'on veut arriver. Quel est notre objectif? Quel est notre but? Qu'est-ce qu'on aimerait pour notre famille? Quelle est la vision que nous avons? Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on aimerait que ça ressemble? Et en vue de ça, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut aider à cette idée, cette vision à plus long terme? Donc, peut-être à la page 5, hein, vous avez une toute petite question, point de repère, tout en bas, on peut poser la question, voilà, à quoi ressemble ma famille maintenant? À quoi ressemble ma famille maintenant? Alors, réfléchissez. Qu'est-ce que c'est ma famille maintenant? C'est une famille ou c'est que 2 adultes qui habitent avec un enfant ou 2? C'est un endroit de détente? C'est un endroit de tension? C'est un endroit où on peut être nous-mêmes? Ou c'est un endroit où on appréhende parce qu'on doit toujours travailler? Et qu'est-ce que c'est notre famille maintenant? Si vous êtes 2 parents, comment est-ce que ça fonctionne avec les 2? Vous arrivez tous les 2 à avoir un fonctionnement avec les enfants et ensemble, ou c'est plutôt un ou l'autre principalement qui va tenir les choses en route? Réfléchissons un instant. Quelle est ma famille aujourd'hui? C'est une toute première question. On le situe. Et après, on tourne la page et on dit, ok, bien, quels sont mes rêves? Qu'est-ce qu'on aimerait pour la famille? Donc, on a la possibilité, on a 3 places à écrire. Et peut-être tout de suite, je vous donne 1 ou 2 minutes pour essayer de dire, voilà, quels sont mes rêves pour la famille? Qu'est-ce que j'aimerais que ça soit plus tard, dans quelques années? Essayons d'écrire 1 ou 2 phrases qui décrit ça. Alors, réfléchissons à notre famille. Notre difficulté, c'est que on regarde notre famille et on dit, mais quelque part, est-ce normal? Alors, je ne sais pas notre idée de normalité de famille, mais probablement votre propre famille ne correspond pas à votre idée de normalité. On vous dit quelque part, on est à côté de la plaque, on est un peu anormal, ça arrive que à nous, etc. Mais en fait, il n'y a pas vraiment des normes au niveau famille. Même la définition est difficile. C'est quoi une famille? C'est 2 parents et 2 enfants, mais ça peut être beaucoup de choses, finalement. C'est complexe. Si on passe d'une culture à une autre, on va trouver que la manière que les familles sont définies ou qui fonctionnent peut varier passablement. Donc, il n'y a pas vraiment des familles normales, même si toutes les familles ne ressemblent pas. Ça, c'est un des défis pour nous. Mais comme parents, nous regardons nos enfants, et ce qui se passe avec les parents, c'est qu'on est continuellement confronté avec la réalité du comportement de l'enfant, n'est-ce pas? C'est pas forcément même un comportement volontaire. Voilà, l'enfant, le nourrisson, il a mangé, voilà, ça se passe bien, il a l'air bien, bon, on passe l'enfant aux visites parce que ça lui fait plaisir, et l'enfant va bénir la visite avec une régurgitation de ce qu'il vient de manger, n'est-ce pas? Ces choses sont complexes et on est tout de suite face à un problème de comportement. L'enfant grandit un peu plus, voilà, on va, une fois qu'il commence à grimper, à marcher, etc., on est face à une question de comportement. On a l'exemple tout de suite avec nous ici. Hein? L'enfant a un comportement. Il fait du bruit. Donc, est-ce normal pour un enfant? Mais oui, personne ne peut dire que non. Mais est-ce stressant pour la maman? Mais oui. Mais c'est bizarre, non? C'est normal pour un enfant, mais c'est stressant pour la maman. C'est quoi ça? C'est nous face à un comportement d'enfant où on aimerait que ça soit autrement, et en même temps on dit, mais c'est normal. Donc, on regarde le comportement, et ça nous empêche bien des fois de regarder au cœur de l'enfant, de pouvoir dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a dans la motivation de l'enfant, qu'est-ce que lui, il cherche à communiquer, ou de vivre, ou quelles sont ses frustrations même, en quelque sorte. Donc tout ça, on est parfois ébloui par ce qui se passe. Voilà. On est ébloui par le fait que l'enfant a vomi. Ça prend toute notre attention. Et on ne pense pas forcément plus loin que ça. Et on essaie de garder ces questions du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si nous pouvons instruire le cœur de notre enfant et pas uniquement régler son comportement, nous construisons complètement à l'intérieur de l'enfant. Bonsoir, bienvenue. Il y a un manuel là sur le côté, vous pouvez prendre un chacun. Non, ça c'est le livre, mais le manuel. Vous pouvez aussi acheter un livre si vous voulez. Voilà. Et finalement, si on parle de vision, on sait que c'est ça qu'on veut faire, n'est-ce pas? On veut former la vraie personne, le cœur de l'enfant. Quelque part, pourquoi on veut qu'un enfant comporte d'une certaine façon? Si on est honnête, c'est pour nous rendre la vie plus simple. N'est-ce pas? C'est plus simple que l'enfant fait comme ci et comme ça. Mais pour lui, dans son cœur, qu'est-ce que ça va faire? Ça, ce sont quand même des autres questions à travailler. Donc, on essaie d'orienter notre pensée pour dire comment faire. Et on pense à ces paquebots qui ont traversé depuis longtemps des longues distances, depuis l'Atlantique, voilà, de faire Londres, New York, voilà, ces longs voyages, on pense au Titanic, on pense à des autres bateaux, oui, nous on avait acheté pour Jeunesse en Mission un bateau qui avant faisait Venise, Australie, ce sont des longs trajets. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce bateau, une fois qu'il sort du port, il sort de New York, il doit traverser vers Londres, le moment qu'il est en haute mer, comment est-ce qu'il fait pour trouver son chemin? Mais il n'y a rien. Si vous avez été une fois là-bas, dans la haute mer, il n'y a vraiment rien du tout. On ne sait pas où nous sommes. Il faut qu'il ait une cape. Il faut savoir repérer ce cap, il faut garder ce cap pour bien arriver à destination. Et on traverse pendant des longues périodes avant d'arriver à la destination. Les familles et les enfants sont très semblables. Il y a des moments qu'on a l'impression qu'on ne sait plus du tout où nous sommes. En fait, on ne sait même pas dans quelle direction on va. On sait uniquement qu'on a commencé avec une certaine idée, un certain cap, et on va essayer de le tenir en espérant qu'on arrive au bon port. Mais c'est vrai qu'il y a bien des moments, comme parents, en traversant la vie avec nos enfants, qu'on se dit, mais franchement, je ne sais pas où ça va, et je ne sais pas où je vais. Donc, d'avoir des choses dans le fond avec lesquelles on tient sont importantes. Ces choses, typiquement, ne sont pas des comportements, mais sont des valeurs. Ce sont des valeurs qui nous aident à tenir un certain cap. Ces valeurs, par exemple, peuvent être là au niveau de la patience, au niveau du pardon, au niveau de l'humilité, au niveau du respect. Toutes ces choses-là font que dans notre famille et avec nos enfants, il y a une ambiance qu'on dirait c'est une ambiance d'amour. Alors on utilise ce terme, on dit voilà, en famille, on s'aime. Et on dit, peut-être on ne dit pas, mais on pouvait dire, voilà, je t'aime. Et on le dit à nos enfants. Et les enfants aussi ont appris à le redire aux parents. Et on souhaite une ambiance d'amour, mais finalement une ambiance d'amour, c'est une composition de certaines valeurs de base que nous tenons à cœur. Et malgré les circonstances, et malgré le fait que parfois on s'en perdu, on tient à ses valeurs. Et pour nous, ça, c'est véritablement important. Nos valeurs et nos rêves vont nous aider à progresser envers quelque chose de vraiment valable. Ce sont nos valeurs que nous défendons et pas forcément notre manière de faire. Deux familles pouvaient démontrer deux manières différentes de maintenir un certain niveau de valeur. On peut trouver une famille qui est très stricte dans sa manière de fonctionner. C'est très rythmé, c'est très codé. Les choses se font d'une certaine façon et pas d'une autre. On peut trouver une autre famille qui est vraiment très laissée-faire. Donc, ça change tout le temps, on change de mode, on écoute, on fait les choses différemment, on laisse aller certaines choses. Et toutes les deux familles vont dire, on fait ça par amour. On opère de cette façon-là pour certaines valeurs, de respect pour l'individu, pour vouloir effectivement donner un cadre intelligent qui existe. Donc ils ont des raisons, ils ont des valeurs, mais les comportements sont autrement. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de dire, oui d'accord, mais comment est-ce que je sais que mon enfant ne va pas grandir pour devenir quelqu'un d'alcoolique ou violent, agressive, voleur. Comment est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux savoir de mon enfant? Est-ce qu'il a des signes précurseurs? Est-ce que mon enfant va finir son éducation? Est-ce qu'il va être capable de travailler correctement? Est-ce qu'il serait honnête dans la vie? Ce sont toutes les questions qu'on se pose. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si en étant très strict, on assure ça, ou on ne sait pas si en étant assez laissé faire, ça fonctionne mieux. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on essaie de tenir certaines valeurs de base qui sont là, et en plus, on essaie de tenir un certain exemple. Ce que vous savez, c'est que vos enfants vont grandir pour vous ressembler. N'est-ce pas? Vous faites des choses d'une certaine manière, ils vont les faire d'une certaine manière. Vous pouvez les dire tout ce que vous voulez, ils vont faire ce qu'ils vont vu faire. Ils vont vous imiter. Ils vont vous imiter d'abord parce qu'ils vous respectent beaucoup. Ils vont vous imiter après parce qu'ils vous haïssent beaucoup et malgré eux, ils se trouvent en train de faire les mêmes choses que vous. Et finalement, en arrivant dans l'âge adulte, ils se rendent compte qu'ils vous ressemblent quand même. Et les choses qui étaient importantes pour vous restent aussi pour eux. On a reçu une fois un couple en visite chez nous. Et en fait, ils se sont perdus ils sont pas arrivés à l'endroit de conférence où ils étaient censés arriver. Ils sont perdus, ils ont trouvé notre adresse sur l'internet, ils sont dirigés en voiture vers notre maison. La seule personne à la maison à ce moment-là, c'était notre fils, 11 ans. Il avait 11 ans sur le moment. Donc il était là, en fin d'après-midi. Et voilà, eux, ils arrivent. Et quand finalement, ils ont téléphoné, nous, on est revenus, ils étaient là, ils ont dit, ah, mais c'était excellent. Il nous a accueillis, il nous a fait le thé, il nous a donné des biscuits, il nous a mis à l'aise, et il nous a causé. Et nous, on s'est dit, mais c'est marrant quand même, parce que il n'était jamais formé pour faire ça. On ne lui a jamais instruit pour faire ça. Mais tout simplement, il a pris le mode d'emploi en observant comment ça se passe quand les visites arrivent. Il a mis toutes les mêmes choses en action, donc capable de faire ce qu'il a vu faire. Et nos enfants sont comme ça. En fait, vous, vous êtes comme ça. Vous êtes une reproduction de certaines valeurs et évidemment certaines craintes et certaines difficultés de vos parents. C'est comme ça. On n'est pas uniquement tributaire de notre environnement, on a aussi une certaine partie génétique, et c'est pour ça aussi que parfois vous ressemblez à vos grands-parents. Certains traits, certaines choses, certaines idées, on les voit. Donc tout ça, on le construit. Les enfants vont le faire. Donc on agit envers les enfants d'une certaine manière. On a des espoirs, on a des rêves, et on essaie de les accomplir, mais on essaie de certaines façons qui ne sont pas toujours profitables. Vous avez par exemple une manière de faire au niveau de l'éducation des enfants, certains comportements pour essayer d'organiser vos enfants, de faire qu'ils tiennent la ligne, si on veut. Et donc effectivement, on peut dire, mais voilà, peut-être nous sommes autoritaires. Ou peut-être nous sommes trop permissifs. Ou peut-être nous sommes corruptifs. D'accord? Voilà. Vous faites ça, je vous donne un bonbon. Chantage émotionnel. Voilà. Vous ne faites pas ça, je vous aime plus. On entend ça. Ou punitif. Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous savez ce qui va se passer. Donc, il y a des approches, et parfois on essaie tout. On s'en compte que rien fonctionne. Et on dit, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Et effectivement, c'est une très bonne position parce que ça nous amène à mieux comprendre le fond des choses. Les enfants sont en formation. On ne peut pas toujours les cadrer exactement comme on aimerait, mais certaines choses aident. Et dans tous ces domaines, quelque part, c'est vrai qu'on utilise tous ces types de choses assez logiquement. Ce qu'on dit est corruptif, finalement, c'est pas aussi mauvais que ça. On l'utilise très très souvent dans des situations. Même comme adulte, hein, on fait quelque chose, vous faites un bout de jardinage, ou vous travaillez bien et vous dites, ah mais bon, on a bien travaillé, on a bien fini, on va s'asseoir pour boire quelque chose dans le jardin. Donc voilà, c'est une sorte de récompense innée en nous qui dit voilà, quelque chose est bien, il y a une conséquence positive. Et donc nous fonctionnons un tout petit peu comme ça. C'est pas tout faux, tout faux. Stephen Covey nous explique la question du bambou. C'est une plante très particulière. Vous plantez en sol la semence, vous regardez, pendant 4 ans, vous ne voyez rien. Sauf peut-être une toute petite bribe qui sort. Parce que tout ce qui se passe, c'est invisible, c'est sous terre, ce sont les racines. Et dans la 4e année, ça pousse. Tout d'un coup, on a une plante de 2 mètres, 3 mètres de grand. Et ça, c'est parlant pour nous. Nos enfants sont souvent comme ça. On investit, on investit, on investit, on ne voit rien. Et on pense que c'est perdu. Mais ce n'est pas perdu. Ils construisent. Mais ils construisent dans ce qui reste pour nous invisible. Et donc ça, c'est bien de savoir. Nous sommes finalement une équipe. Et d'être une équipe en famille veut dire qu'on va faire des choses ensemble. On va encourager, on va jouer, on va pleurer, on va passer du temps, on va voir des films, prendre des vacances, etc., etc., etc. On peut accueillir des personnes ensemble, on peut nettoyer la maison ensemble, on peut faire des choses qui nous font travailler comme équipe. Et ça, c'est bien intéressant. Un enfant, surtout bizarrement, un enfant petit, va répondre de manière excellente à des responsabilités directes. Pour l'enfant, tout est jeu. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à Toys R Us pour jouer. Tout se trouve à la maison. L'aspirateur, les assiettes, la vaisselle, tout est jeu. On joue, on fait que ça. Donc de mettre la table, c'est un jeu. Même de ranger quelque chose pourrait être un jeu.
Il différencie bien.
Il
se rend bien quand il me dit je le
sais,
mais.
Ils ont quel âge maintenant?
Il a 5.
Ouais, voilà. Donc,
à 5 ans, pour lui, il se rend bien quand c'est un jeu, vraiment, ça lui fait du plaisir.
Qui les a éduqués à ça?
Bon, quand je vois le film, t'inquiète pas.
Mais ils entrent dedans facilement. Alors, à un moment donné, effectivement, ils commencent à voir plus loin, ils commencent à voir les choses autrement. Il ne faut jamais abuser de la gentillesse d'un enfant. Donc, ils vont faire les choses de très bon cœur, de très bonne volonté, mais on doit être bien clair qu'on lui laisse faire les choses pour lui. On ne lui fait pas faire les choses pour nous. D'accord? Mais donc, le plus qu'il arrive à tout faire en jouant, mieux que ça vaut, et on peut partager ces choses. Notre fils, notre deuxième, était très particulier dans ce sens. Hein. Il aimait pas du tout faire quelque chose seul. Même bien plus loin dans l'adolescence. Faire la vaisselle n'était pas un problème, mais de le faire seul, c'était un calvaire. Donc il voulait toujours faire les choses avec quelqu'un. Et si on faisait quelque chose ensemble, c'était plus une corvée, c'était un plaisir. Mais il fallait ce mode d'emploi pour que ça fonctionnait correctement pour lui. Par contre, notre fille, elle fonctionnait bien différemment. Elle était plutôt du style, je vais faire ça moi-même, je le fais vite, comme ça c'est fait, boum, je fais autre chose. Ce sont des modes d'emploi autres, différents. Mais on peut les confier des véritables responsabilités. Et effectivement, on est étonné parfois qu'un enfant qu'on considère immature ou de bas âge arrive à faire quelque chose de très responsable sans énormément de problèmes. Donc on apprend bien qu'il peut gérer de l'argent à un certain moment, il peut savoir brancher, débrancher quelque chose, il peut savoir porter des choses, il peut mettre la table d'une bonne manière. Il y a beaucoup de choses qu'il arrive à faire. Quand on se rend compte que dans le temps des Écritures, un enfant était considéré adulte à l'âge de 12 ou éventuellement 13 ans, on se rend compte que voilà, on les laisse les nôtres en stade enfant parfois bien trop longtemps. Alors, voilà. Des choses qu'on peut faire en famille, des différentes tâches. Mais autour de tout ça, il y a des choses clés, qui ne sont pas véritablement des tâches, mais qui sont plutôt des fêtes. Ce sont des traditions qui nous mènent ensemble. J'arrive pas à faire passer ce diapo. qui sait pourquoi. Bon, si jamais ça bouge, vous me direz. Donc, nos traditions familiales font partie de qui nous sommes. On est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une certaine tradition ou pas? Est-ce qu'on fait certaines choses un certain jour de la semaine ou pas? Quand les enfants rentrent de l'école, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est vendredi soir, c'est avant le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des moments de repas spéciaux, dimanche midi. Est-ce qu'on mange ensemble ou pas? Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont nos traditions? Pour les anniversaires, qu'est-ce qu'on fait? On a des traditions pour Pâques, pour Noël, peut-être des autres jours de fête. Il y a des choses qui sont plutôt répétitives. Ces traditions à l'intérieur de nos familles sont des points de repère pour les enfants. Ils peuvent être différents de famille en famille, mais ils vont nous aider à construire quelque chose. Et vous verrez que chaque année, le moment qu'une tradition est perçue et comprise par l'enfant, il va le réclamer. Et le jour que vous ne le faites plus, il va dire, mais c'est quoi qui se passe? Il veut, il cherche. C'est ces moments qui sont véritablement des moments de point de repère pour lui. Donc on essaie de les installer. Et on essaie si possible... Oh. Non. Ah, voilà. Maintenant, tu passes en même temps. Alors, on va essayer de passer en arrière. Non, c'est impossible. Voilà. Oh. Bon. C'est... Voilà, ça arrive. Il dormait. Voilà, nos traditions. Voilà, diriger ensemble, c'est là que je voulais venir. On essaie de diriger ensemble comme parents, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas d'accord. Vous faites les choses différemment. Vous avez des autres priorités. Et ça, c'est compliqué. Et vous pensez, pour être des bons parents, on doit absolument être d'accord. C'est pas possible. Vous n'êtes pas comme ça. Et en fait, c'est un très bon apprentissage pour l'enfant. Vous êtes deux personnes, vous avez des avis différents. Il voit très bien que vous réagissez différemment. Il sait très bien à qui demander s'il veut certaines choses, n'est-ce pas? S'il veut rester un peu plus longtemps voir la télé, il sait très bien à qui il faut demander. S'il veut manger des bonbons avant le repas, il sait très bien à qui demander. Donc, l'enfant est doué pour savoir les différences. On n'est jamais complètement d'accord. Donc, il faut bien tenir ça en compte. Il dit, mais on n'est pas d'accord, surtout on n'agit pas de la même manière, mais nous sommes ensemble. Cet apprentissage est très important. Ça fait partie de notre ensemble. Sinon, on laisse l'enfant devenir une source de division. Ça, on ne veut pas faire. Donc, il faut vraiment que notre transparence est valable. Alors, si on est seul, évidemment, on est toujours d'accord avec soi-même. Il y a beaucoup de difficultés, de fardeaux pour le parent qui doit élever un enfant seul. Je trouve que c'est un choix qui, voilà, quelque part, parfois, j'ai entendu des gens en disant, voilà, j'aimerais avoir des enfants et j'aimerais le faire toute seule. Je me dis, mais comment est-ce possible d'imaginer ça? Ça semble juste trop difficile, parce que tout tombe sur toi. Il n'y a plus de points de repère, plus de partage des choses. Si tu es malade, voilà, ça fonctionne difficilement. Je trouve que c'est complexe. Mais au minimum, on n'a pas cette difficulté de ne pas être d'accord avec l'autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une chose qui est épargnée. Par contre, les parents qui ont la chance d'être à deux, la difficulté, une fois qu'on a des enfants, c'est de se souvenir que nous sommes deux en couple et de pouvoir prendre du temps pour le couple. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit constamment travailler. Finalement, si vous voulez donner quelque chose de valable à vos enfants, c'est la possibilité de travailler et de soigner votre relation de couple. Bien des fois, on voit, on entend des parents qui disent, on pense en faire bien, mais le plus important, c'est l'enfant. Alors, peut-être c'est vrai. Il y a un sens dans lequel c'est vrai. Mais la manière d'honorer le fait que l'enfant est le plus important, ce n'est pas de mettre l'enfant au centre. Ça lui fait un mauvais service. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des parents qui s'aiment, qui l'expriment, qui travaillent leur relation et créent une cadre de sécurité. Ça, c'est la manière qu'on arrive à mettre l'enfant véritablement en première position. Parce qu'il a besoin de ça. Donc, nous oublions facilement, comme parents, de prendre du temps pour nous et de faire quelque chose qui peut vraiment aider nos relations. Évidemment, une famille est souvent bien plus large que juste nous. Ce sont les tantes, les oncles, les amis proches, beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'influence positive sur nos enfants, n'est-ce pas? Et donc, on peut vraiment inclure ces personnes, mais le couple de base joue un rôle particulièrement stratégique pour l'enfant. Donc, il va beaucoup fonctionner avec des autres et certaines fois, on trouve des personnes qui ont grandi, par exemple, plutôt avec des grands-parents ou avec des oncles et tantes. Et effectivement, leur alliance est vraiment mise envers ces personnes-là. Mais dans une famille où il est avec les parents, ils vont naturellement donner l'importance à ça. Alors, on résume deux, trois idées qu'on a déjà dites et après on fait une pause. Voilà. On prend des idées pour comment être ensemble, que faire en famille. Il y a toujours des choses à faire. On se rend compte que nos enfants, ils ne nous écoutent pas particulièrement. Par contre, ils regardent ce qu'on est en train de faire et ils vont le reproduire. Ça, c'est leur propre façon de faire dans beaucoup de domaines, finalement. Et donc, cette reproduction, quelque part, c'est une leçon pour nous, n'est-ce pas? On arrive à un certain âge d'adulte, on pense qu'on a compris certaines leçons, et tout d'un coup, on a des enfants, et ces enfants commencent à agir comme un miroir. Dans nos enfants, on voit tous nos problèmes, n'est-ce pas? On dit, ah non, c'est pas possible, je suis comme ça. Mais on se rend compte qu'effectivement, c'est de là que ça vient. Donc, cette problématique de reproduction est là. C'est impossible d'imaginer que l'enfant va tout simplement écouter nos paroles, mais ignorer les choses que nous faisons. Ça se voit dans des situations dramatiques. Par exemple, un enfant qui est dans une famille où il est conscient qu'il y a un niveau de violence physique, cet enfant-là a beaucoup plus de probabilités d'être violent lui-même plus tard dans sa propre famille. En fait, on dit qu'un enfant qui a vu des problèmes de violence physique dans la maison avec ses propres parents a 1000 fois plus de probabilité de reproduire ce comportement plus tard qu'un enfant qui n'a rien vu. Donc ce type de transmission est très est très important. Et c'est en fait c'est une sorte de facteur sans compliquer l'histoire entre ce que nous avons dans nos génétiques et ce que nous avons au niveau de notre environnement. Et en fait, notre environnement agit donc comme une sorte de déclencheur au niveau de notre génétique. Donc, par exemple, tu peux avoir un patrimoine génétique qui pourrait te disposer d'être quelqu'un qui tue, un tueur. C'est possible, hein, on peut identifier certains domaines génétiquement qui donnent cette tendance. Par contre, si tu grandis dans une famille où tu expérimentes un bon cadre, de l'amour, du respect, paix, etc., tu fonctionnes bien, cet élément génétique va jamais être enclenché. Donc, et on peut voir bien des personnes dans ce sens, ils grandissent tout à fait normalement. Par contre, on a des autres, dans des situations de famille qui sont difficiles, ça déclenche le problème, et donc l'environnement et le génétique combinent pour faire quelque chose qui devient dramatique, finalement. Donc, nous sommes toujours sur ce type de reproduction. Donc, notre exemple, ce qu'on fait, va déclencher au pas quelque chose que nous portons en nous. Donc effectivement, on peut éviter, on peut changer, on peut faire que l'enfant a plus de possibilités de bien grandir, autant qu'une situation difficile peut faire que l'enfant a peut-être plus de probabilités de mal réussir. Donc, nos visions pour la famille. Qu'est-ce que c'est? De quelle manière on le définit? On va peut-être reprendre certains de ces éléments et les dialoguer un peu plus tard, une fois qu'on a bu et mangé quelque chose. Vous avez aussi ici, dans votre manuel, certaines autres questions pour considérer, et aussi une petite section qui dit, voilà, pour aller plus loin, il y a certaines astuces qui sont là. Donc, je propose qu'on s'arrête là. On prend une bonne quinzaine de minutes pour faire la pause. Et après, on se met en groupe.